L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Omar Aktouf, professeur titulaire à HEC Montréal et membre du Conseil scientifique d'attaque au Québec. Avec lui, nous allons analyser les risques systémiques que fait peser le nouveau conflit au Proche-Orient sur le système financier international et l'économie mondiale, notamment dans sa partie occidentale. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Avant d'entamer notre conversation d'aujourd'hui, je voudrais aborder le thème de l'importance de l'accès à l'information. Les sujets que nous traitons dans l'émission « L'Afrique en marche » sont souvent passés sous silence ou présentés de manière biaisée dans les médias occidentaux. Cela s'applique également à l'image du continent africain que les médias mainstream tentent de donner à leur public. De plus, les gouvernements occidentaux bloquent l'accès de leurs citoyens aux sources d'informations qui représentent d'autres points de vue. C'est pourquoi il est si important que les peuples de différents pays et continents apprennent à mieux se connaître, notamment par le biais de la coopération des médias, dont le partenariat de Radio Maliba FM et Radio Spoutnik Afrique en est un exemple. Tels sont les thèmes abordés lors de l'entretien avec Spoutnik Afrique par Rim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso, qui effectue une visite de travail en Russie et participe au Forum des Cultures Unies qui s'ouvre à Saint-Pétersbourg.
Ben, ce qu'il faut dire, c'est que nous repartons pleinement satisfaits de ces échanges que nous avons eus ce soir avec Madame la vice-ministre, mais également les professionnels et les responsables des médias russes. Cela d'autant plus que ce sont des échanges qui nous ont permis de nous rendre compte que nous sommes en phase et que nous avons une convergence de vue aujourd'hui sur la nécessité de renforcer la coopération sur le plan de la communication et sur le plan des médias entre le Burkina Faso et la Russie. Cela est d'autant plus important que la plupart du temps, au Burkina Faso, les citoyens, quand ils entendent parler de la Russie, c'est à travers d'autres médias et qui, malheureusement, la plupart du temps, ne disent pas la réalité des choses, mais disent plutôt leur manière de voir les choses. Il faut aujourd'hui que nous puissions corriger cela. Nous savons aussi que dans la dynamique de renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et la Russie, il faut que la communication ait toute sa place. Et cela donc a valu le fait que nous avons décidé de signer rapidement un mémorandum entre les deux ministères, entre les deux pays, sur le plan de la communication, pour faciliter la coopération entre les médias, que ce soit dans les productions de contenu, dans les productions d'informations, que ce soit dans la technique, même la télédiffusion. Et comme je l'ai dit, la plupart du temps, les peuples, pour se connaître, c'est à travers les médias. Aujourd'hui, quand vous dites la Russie au Burkina Faso, les gens connaissent beaucoup plus le président de la Fédération de Russie, son Excellence, M. Vladimir Poutine. Quand on dit Burkina Faso en Russie, je suis sûr que les gens connaissent peut-être son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, mais les peuples ne se connaissent pas. Alors que le Burkina est un pays de culture, le Burkina a une riche histoire, la Russie a une riche histoire, a une riche culture, et nous avons intérêt aujourd'hui à faire en sorte que les peuples se connaissent mieux à travers des échanges de programmes, faire en sorte qu'il y ait plus de Burkina Faso dans les télés en Russie, qu'il y ait plus de Russie dans les télés au Burkina Faso et dans les radios et dans la presse écrite, mais aussi sur les plateformes numériques. Et nous sommes pleinement engagés à créer les conditions pour cela.
Merci beaucoup. Et encore une petite question, vous l'avez évoqué pendant votre discours lors de la rencontre. Vous savez que Spoutnik, comme RT, sont interdits en France notamment et en Union européenne. Comment évaluez-vous cette décision de Bruxelles et des autorités françaises en l'occurrence aussi? Et on vous reproche également l'interdiction de certains médias français sur votre sol. Donc pourriez-vous un petit peu englober la réponse sur cette question?
Ben, c'est avec tristesse, bien sûr, que nous, depuis le Burkina Faso, nous avons assisté aussi à la fermeture de chaînes russes en Europe et en France. Et comme vous le savez bien, l'Union européenne ainsi que la France sont des pays et des entités qui se présentent comme les grands défenseurs des droits de l'homme, des grands défenseurs de la liberté d'expression. Nous voyons que dans le cas présent, ce sont des suspensions de médias qui ont été faites au mépris de toutes les règles, même les plus élémentaires en matière de liberté d'expression. Nous avons vu en cela, donc, bien sûr, la volonté de faire en sorte qu'il y ait une seule manière de voir le monde qui soit diffusée et que toute voix dissonante n'a pas droit de citer. Au Burkina Faso aussi, nous avons dû prendre des mesures, vous l'avez suivi, notamment pour interdire la diffusion d'un certain nombre de médias qui sont des médias de subversion et des médias de domination. Nous avons décidé de nous assumer pleinement parce que ce qui est remis en cause, c'est l'option de souveraineté du Burkina Faso. Aujourd'hui, le Burkina Faso a pris son destin en main. Le Burkina Faso s'assume pleinement dans sa trajectoire et surtout, cela est soutenu par un sursaut d'ensemble de la plupart des citoyens burkinabés. Si bien que nous pouvons donc assumer pleinement les décisions que nous avons prises. Et c'est des décisions qui sont motivées parce que ces médias avaient choisi au Burkina Faso de donner la parole à des groupes terroristes qui tuent au Burkina Faso, mais qui sont présentés autrement par ces médias. Et ça, c'est des choses que nous ne pouvons pas accepter. Et je suis sûr que ce qui est dénoncé chez nous, c'est ce qu'eux-mêmes ils pratiquent chez eux. Quand on voit que des chaînes russes comme RT ont été fermées totalement en France, ça montre véritablement qu'il n'y a pas de liberté d'expression non plus dans ces pays. Il n'y a pas de liberté d'expression, il y a une volonté de faire la propagande et d'imposer une seule manière de voir le monde au reste du monde. Ça, c'est inacceptable. Et je pense que ce soir, aujourd'hui, l'enjeu de nos échanges, c'est ça. Faire en sorte que nos citoyens ne se voient pas imposer des informations traitées d'une seule manière, avec une seule manière de voir le monde, d'imposer une seule manière de voir le monde, de diaboliser ceux qu'on n'aime pas, et voilà, de façon systématique. Je pense que c'est à cela qu'il faut qu'on mette fin aujourd'hui.
C'était Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso. Au micro de Spoutnik Afrique, il a commenté la coopération entre les médias russes et burkinabés, ainsi que l'interdiction dans les pays occidentaux de Spoutnik et RT. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. L'escalade des tensions géopolitiques dans les différentes régions du monde, dont le dernier épisode est le déclenchement le 7 octobre d'un nouveau conflit au Proche-Orient, font grandir le risque d'aggravation de la dégradation de la situation financière et économique internationale. En effet, selon une majorité d'experts, dans ce contexte, l'économie mondiale ne peut en ressortir qu'affaiblie alors que l'inflation persiste et redémarre à la hausse et la croissance demeure en berne. À l'image de ce qui s'était passé en 1973 et en 1979, lors du premier et deuxième choc pétrolier, l'idée qu'une hausse brutale des prix du pétrole fait couler la sueur froide à la majorité des pays dépendant de cette source d'énergie, notamment en Occident. La situation actuelle, marquée par la multiplicité des enjeux, en particulier démographiques, économiques et sociaux, annonce la fin du cycle économique mis sur pied dans le cadre des accords de Bretton Woods à la veille de la fin de la Seconde Guerre mondiale. En clair, elle n'est pas un prolongement du passé, mais un saut dans le futur, car le monde de demain se décide dans les conflits actuels. En effet, si l'Iran est attaqué ou décide de prendre part au conflit actuel, il ne manquerait pas de procéder à la fermeture du détroit d'Ormuz et même de Bab el-Mandeb. Il va sans rappeler qu'au moins 20% du commerce du pétrole, une grande partie du commerce mondial, transite par ces deux goulets d'étranglement. L'Arabie Saoudite et la Russie use d'ailleurs de l'arme du pétrole depuis plusieurs mois et entendent le poursuivre en réduisant leur production d'ici la fin de l'année. Ainsi, dans une économie globalisée et encore largement dépendante des énergies fossiles, le risque de pression sur les prix est élevé. Aux États-Unis, où la hausse des prix accélère de nouveau depuis maintenant plusieurs mois, le gouvernement se prépare à ce que ce conflit perdure et envisage d'acheter 6 millions de barils de pétrole en décembre 2023 et janvier 2024 dans le cadre de son plan de reconstitution du stock d'urgence. Pour discuter de toutes ces questions fondamentales, j'ai le plaisir de recevoir depuis Montréal Omar Aktouf, professeur titulaire à HEC Montréal, membre du Conseil scientifique d'attaque au Québec. Professeur Omar Aktouf, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Bonjour, merci à vous.
Bien, alors la première question, professeur Aktouf, d'ores et déjà l'incertitude autour de ces tensions géopolitiques, combinées à un discours de la Fed inintelligible, influence les marchés financiers internationaux. Et d'ailleurs, depuis plusieurs semaines, d'importantes liquidations ont lieu sur le marché obligataire. Et les obligations sont au centre des préoccupations des marchés, car et le taux de référence américain à 10 ans se négocie désormais à un niveau significatif de 5%, un record depuis 2007. Tandis que le taux à 2 ans américain dépasse les 5%, signe que le court terme est plus dangereux que le long terme selon le marché. Alors, que pensez-vous de cette situation? Et peut-on dire que l'économie mondiale risque une nouvelle crise majeure comme celle de 2008-2009?
La première des choses, c'est que il faut comprendre que la Fed a un discours un peu ambigu et la Fed elle-même, il faut pas oublier que Alan Greenspan, dans son livre Les grandes turbulences, je pense, ou les temps de turbulence, etc., quand il a quitté la Fed, il a écrit deux choses incroyables. Il a écrit un, la majorité des gens ordinaires s'imaginent que nous, les économistes et les gens de la Fed savons des choses qu'ils ne savent pas, alors que nous ne savons pas plus qu'eux. On ne sait rien de plus qu'eux.
D'accord.
C'est Alan Greenspan qui a dit ça lui-même. Et il a ajouté plus loin, il n'est pas le seul à l'avoir dit, d'autres, je pense, l'ont dit aussi, notamment un prix Nobel, si je me souviens bien, je ne me souviens pas de son nom, c'est que les instruments d'analyse économique actuels sont déréglés. Parce que l'évolution de l'économie depuis que les théories économiques néoclassiques, etc., néolibérales ont été élaborées, la réalité économique a beaucoup évolué et dans des sens qu'on ne comprend pas très bien. Donc il faut avoir ça en tête toujours, de voir que est-ce qu'on reste dans le même paradigme où on ne comprend pas grand-chose, on tâtonne, et puis aussi, est-ce que ces instruments sont toujours valables pour analyser l'économie
Monsieur Aktouf, est-ce que c'est par rapport à la déconnexion justement de cette économie et des instruments de ces instruments d'analyse par rapport à l'économie réelle?
Par rapport à l'économie réelle, bien entendu. Oui, tout à fait. Mais les instruments d'analyse, de toutes les façons, que ce soit l'économie réelle ou que ce soit l'économie financière ou spéculative, etc., ça n'empêche pas que les instruments d'analyse, beaucoup d'économistes, etc., disent qu'ils sont aujourd'hui dépassés. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver de solution. Alors, on a beau faire du quantitative easing, on revient à plus d'austérité. L'exemple grec, par exemple. Mm-hmm. En Grèce, on a tout essayé. On a essayé toute la panoplie de tous les instruments que l'économie et les instruments économiques donnent, et on voit bien que la Grèce est toujours en train de ramer. Bon, donc pour répondre plus directement à ta question, oui, bien sûr, aujourd'hui les titres à court terme rapportent plus que les titres à long terme. Bon, alors ça serait peut-être un espoir que le long terme. Alors, qu'est-ce que c'est ce long terme? Mm-hmm. À mon avis, vu la conjonction actuelle de ce qu'on a comme inflation, bon, guerre, crise pétrolière, etc., etc. Enfin, toutes ces conjonctions font que ce long terme sera, à mon avis, plus long, bien plus long que d'habitude. Donc, il faudra attendre peut-être 10 ans, autour de 10 années minimum, à mon avis, pour voir revenir un peu l'équilibre des titres à court et à long terme. Mais ce qui va se passer tout de suite, c'est que très certainement, tous ceux qui détiennent des titres vont vendre, parce que les titres à long terme ne rapportent pas, donc il vaut mieux les vendre tout de suite avant qu'ils ne perdent encore plus de valeur. Alors, ce qui va provoquer sur les marchés un déséquilibre comme on a eu à la crise de Silicon Valley. Mm-hmm. Rappelez-vous, c'était la même chose. Silicon Valley était rempli de titres à long terme et de bons du trésor, BlackRock, etc., etc. Bon, donc il y a ce risque et aussi le risque de voir les gens se précipiter vers les titres à court terme. Et donc acheter des titres à court terme, ce qui va sans doute provoquer des mouvements d'emprunt plus conséquents que ce qu'on voit jusque-là malgré les taux élevés, et ce qui risque aussi de provoquer une bulle du fait que ces taux d'intérêt élevés composés feront que la valeur de ces titres à court terme ne va pas compenser les pertes qu'on aura au moment où il faudra liquider. D'accord. C'est titre à court terme.
Si j'ai bien compris votre réponse, on n'est pas loin d'une autre crise bancaire. Faisons un peu d'histoire. L'endettement lié à la crise de 1929 a fait grimper la dette totale des États-Unis à 200 milliards de dollars, soit 300% du PIB en 1933. Puis à partir des années 80, l'endettement aussi bien public que privé a recommencé à augmenter à partir du plafond de 150% du PIB, notamment avec l'émergence de l'endettement du secteur financier suite à l'ultralibéralisation financière de Thatcher que vous avez évoqué tout à l'heure. Alors actuellement, en 2023, l'endettement total des États-Unis est de plus de 400% du PIB, avec une dette globale de plus de 103 000 milliards de dollars global. Alors, à comparer les ordres de grandeur entre les deux situations, on peut considérer aisément que la crise de 1929 est une petite balade de parc par rapport à ce qui attend le monde aujourd'hui. Bien sûr, avec une dette de 103 000, alors qu'en pensez-vous d'abord? Et sommes-nous à la veille d'un cataclysme financier et économique aux conséquences incalculables sur tous les niveaux?
Si on met ensemble tous ces chiffres-là, il faut que les auditeurs qu'on comprenne un peu, parce que toi tu as pris les choses globalement.
Globalement.
Bon, alors oui. Donc si on prend l'évasion fiscale, elle est à 1 000 milliards de dollars. Donc ça à l'échelle mondiale. Bon, si on prend la dette totale des États-Unis, c'est 235 000 milliards de dollars. C'est-à-dire 240% du PIB actuellement là. C'est passé à 240% du PIB depuis 2021. Bon, donc on a 10 000 milliards de déficit commercial et on a 1 400 à 2 000 milliards de déficit budgétaire. Ça c'est juste les USA. Alors vous faites l'addition de tout ça. Et vous avez pratiquement l'économie, les deux tiers ou la moitié de l'économie mondiale. Mmh. Alors, comment est-ce que on va se sortir de ça? Est-ce que les États-Unis vont essayer de utiliser la seule puissance qui leur reste encore, c'est-à-dire la puissance de feu?
Ouais.
La puissance de l'OTAN, la puissance militaire. Pour soit empêcher, soit contrôler en moyenne ou grande partie les retombées du commerce de la route de la soie et de la nouvelle route de la soie, ou une autre alternative, ça serait d'utiliser donc le quantitative easing et d'utiliser leur capacité d'imposer, comme ils l'ont fait à la fin du 19e siècle, d'imposer le non-paiement de toute la dette américaine. Il faut savoir que 7/8 des dollars américains contrôlés par les Américains circulent dans le monde. Mmh. Alors, si on prend les réserves en dollars, si on prend tout ça, tout ce qui est libellé en dollars dans le monde, 7/8, alors, est-ce qu'ils vont utiliser leur puissance de feu, leur seule puissance qui leur reste, parce qu'ils n'ont plus la puissance scientifique, ils n'ont plus la puissance technologique, et ils n'ont plus la puissance économique, parce que les États-Unis, le Canada et l'Europe ne sont plus des pays ateliers. C'est-à-dire, ne sont plus des pays qui produisent de l'économie réelle. Ils ne produisent que de la finance. Alors, est-ce qu'avec cette force financière plus la puissance de feu, est-ce qu'ils vont essayer d'imposer une nouvelle façon de faire du dollar la monnaie de contrôle brutale, de façon brutale, de l'économie mondiale? Alors, ça, c'est un scénario tout à fait plausible, mais les dégâts seront considérables, parce que là, ils vont engager plusieurs foyers de guerre. Mais à mon avis, encore une fois, le dollar, à terme, il est condamné.
Et pourquoi ?
Ben, parce que les capacités installées de production d'économie réelle se trouvent aujourd'hui essentiellement en Russie, en Inde, au Brésil,
et en Chine.
Plus ou moins l'Afrique du Sud et la Chine, donc le BRICS. Mmh. Alors, si on n'utilise que l'or, qu'est-ce que les Américains peuvent faire juste avec l'or? Juste avec l'or, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est garantir la valeur de leur monnaie pour aller acheter tout ce dont ils ont besoin en termes d'économie réelle chez les Chinois, chez les Russes, chez les Brésiliens et chez l'Inde. Voilà. Et donc, à ce compte-là, les États-Unis ne seront pas capables de rivaliser avec les capacités installées, la 5G par exemple, qu'ils ne contrôlent même pas aujourd'hui. Eh bien, les États-Unis seront incapables de combler ce retard ou ce gap, ce fossé qui a été creusé avec les pays du BRICS et notamment la Chine, uniquement en jouant sur le jeu dollar, réserve, dette, valeur de la dette. Ça, ils peuvent plus.
Et donc, dans ce cas-là, s'il y a justement une accélération de vente des actifs par ces pays des BRICS, par exemple, parce qu'il y a beaucoup qui justement sont en train de liquider leurs actifs en dollars, et quel est le scénario auquel on devrait s'attendre dans ce cas-là?
Alors, ce à quoi on devrait s'attendre, c'est soit le scénario le plus prudent, soit à une profonde négociation entre tout ce qui est BRICS, tout ce qui est Chine, Russie, etc., etc., et tout ce qui est capitalisme entrepreneurial et capitalisme financier, pour se mettre d'accord sur la façon, notamment, de jouer avec l'économie mondiale, y compris en Afrique, en Amérique latine, etc., etc., etc. Donc, trouver un terrain d'entente pour que chacun soit gagnant-gagnant. Mmh. Mais ce scénario gagnant-gagnant va être forcément synonyme d'une baisse du niveau de vie américain et du niveau de vie européen et canadien. Alors, est-ce qu'ils vont accepter ce relatif, donc ce abaissement de leur niveau de vie pour se mettre un peu en équilibre, ce que j'estime être le scénario le plus sage? J'en doute, parce qu'ils sont toujours dans le fantasme de croire qu'ils contrôlent le monde et qu'ils sont les maîtres du monde. Alors, malheureusement, le scénario le plus plausible, si je me mets dans la mentalité américano-OTAN, bon, l'Europe c'était assez divisé, assez flou et pas très net sur ce plan-là. Mais les USA, tels qu'on les connaît jusqu'à présent, ils vont certainement pas vouloir de ce type de négociation, donc de gagnant-gagnant, sur une économie mondiale négociée et basée sur de nouvelles formes de fondements autres que les fondements néolibéraux. Alors c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que nous sortirons de ces pièges de conjonctions systématiques et cycliques et de plus en plus rapides, et de plus en plus rapide, récession, inflation, hausse des taux d'intérêt, hausse du pétrole, baisse du pétrole, yo-yo du pétrole, etc. Et basculement de l'atelier du monde vers les BRICS, beaucoup plus que vers l'Occident, eh bien, les États-Unis, leur façon de faire, c'est de continuer à chercher à imposer de la façon toujours la plus brutale possible la domination du dollar. Et ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, en Israël, et peut-être demain à Taïwan, et peut-être un élargissement vers l'Iran, la Turquie, etc., du conflit du Moyen-Orient, eh bien, je pense que c'est le scénario sur lequel les États-Unis veulent jouer, malheureusement.
Donc, à votre avis, c'est la raison pour laquelle ils ont envoyé tous ces porte-avions, tous les groupements de porte-avions sous-marins vers la Méditerranée orientale, au large d'Israël et de Gaza.
Absolument. Absolument. Comme l'a dit Noam Chomsky, il y a quelques jours, il a dit, malheureusement, la mentalité américaine, c'est d'avoir dans le monde ce qu'il a appelé lui-même des flics de quartier. Or, Israël, c'est le flic de quartier pour le pétrole. Mmh. Voilà. L'Arabie Saoudite, la même chose. Et ils veulent d'autres flics de quartier. Ils en ont en Amérique latine. Bon, mais ils veulent d'autres flics de quartier en Afrique et dans la zone indo-chinoise, ou Chine-Inde, si on veut, ou Inde-Chine, ou en tout cas de la mer de Chine jusqu'à l'Atlantique, jusqu'au canal de Suez.
Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, le professeur Omar Aktouf, pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Spoutnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Omar Aktouf, professeur titulaire à HEC Montréal et membre du conseil scientifique d'attaque au Québec. Professeur Aktouf, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre émission. Quand on regarde, Monsieur Aktouf, actuellement la dette américaine, c'est très important pour que nos auditeurs comprennent, parce que le dollar domine tout en réalité. Donc toute cette dette, 7563 milliards au moins ou plus actuellement de dollars de dette fédérale sont détenus par des États étrangers. Donc, qui achètent les bons du trésor américain. Mais quand on regarde le pourcentage, cela ne représente que 7,34% de la dette totale des États-Unis.
Oui, 8%, oui, à peu près. Oui.
C'est ça. Alors justement, est-ce que ce n'est pas in fine le scénario qui est recherché? C'est-à-dire que comme la dette, elle est pratiquement presque à 100%, elle est détenue par les États-Unis. Donc, on peut dévaluer le dollar pour aplatir complètement la dette, mais en faisant payer le prix aux autres pays. Qu'en pensez-vous? Et bien sûr, comme vous disiez tout à l'heure, comme le dollar, il est garanti par les porte-avions et par les missiles nucléaires, personne n'ira aux États-Unis leur dire « Pourquoi vous avez fait ça ?»
Oui, oui, bien entendu. Alors, je sais pas, mais a priori, j'aurais tendance à penser que les États-Unis ne chercheraient pas à jouer ce jeu-là, parce que même si ce n'est que 8% de la dette qui est détenue par les autres pays, eh bien, il faut y ajouter aussi toutes les réserves de change que les pays de, par exemple, de tout ce qui est déficit commercial de tous les pays du monde, ils sont obligés de conserver l'équivalent de ces déficits commerciaux en dollars. Voilà. Alors donc, si vous ajoutez ça plus les quantités de dollars qui circulent et qui sont thésaurisées et les quantités de dollars qui sont dans les économies informelles et dont on n'a aucune idée, c'est si on prend quelques pays d'Afrique comme ça, on est à peu près certain que, bah, commencer par l'Algérie, 40 à 50% de l'économie est informelle et peut-être certainement un 30%. De ce qui constitue cette économie-là est libellé en dollars. Mmh. Alors, donc, vu la quantité de dollars qui circulent dans le monde, je disais tout à l'heure que c'était à peu près 7/8 si on prend le total. Alors, le seul risque pour les États-Unis, c'est une dévaluation de la valeur de leur dette. Alors si la valeur de la dette américaine dégringole, bon, même si c'est 8% détenu en dollars.
Mais parce
par les
que,
pays,
c'est-à-dire que ce mouvement-là de liquidation des actifs par les pays qui détiennent de la dette, s'ils vendent tous et que la dette devient 100% détenue par les Américains, à ce moment-là, ils peuvent dévaluer complètement le dollar et aplatir la dette. Mais en revanche, comme vous le dites à juste titre, tous les pays qui ont des réserves en dollars, ils n'auront plus qu'à acheter une corde pour se pendre.
Exactement, exactement. Alors si donc c'est pour ça que ça m'étonnerait que les pays qui détiennent ce 8% de la dette se mettent à le liquider. D'accord. Parce que ils vont choisir la corde avec laquelle ils vont se pendre. Donc il ferait mieux de les garder, au contraire. Plus ils conservent de dollars hors contrôle direct des États-Unis, mieux ils ont des cartes à jouer vis-à-vis des États-Unis.
Mmh. D'accord. Alors maintenant, passons un peu aux pays africains, et à la détérioration de la nature et des défis écologiques. Il y a quelques mois, la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a déclaré dans une réunion du FMI qu'il y avait du nouveau pour les pays pauvres, et en annonçant une réallocation à leur profit, écoutez bien, de 100 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux, ce qu'on appelle la monnaie du FMI ou les DTS. Et puis elle déclare, c'est le futur de l'humanité qui est en train d'être discuté ici, avec les 100 milliards de dollars de DTS. Bien. Alors, qu'en pensez-vous? Est-il vraiment réaliste de parler de lutte contre la pauvreté dans le monde avec une allocation de quelques dizaines de milliards de dollars tout en exigeant à ces pays d'investir dans l'économie verte, très coûteuse, y compris pour les pays riches?
Ben, écoutez, non, là, c'est pour moi, c'est franchement se moquer du monde. 100 milliards de dollars, c'est une goutte, gouttelette dans l'océan Pacifique et l'océan Atlantique.
Supposons que en Afrique, il n'y a pas 54 pays, il y a 50. 100 milliards divisé par 50, c'est 2 milliards par pays.
Et voilà. Alors donc, ces 2 milliards, 1 milliard va aller dans la poche des corrompus. Ou 1,5 milliard, et il restera 500 millions pour faire je ne sais quoi. Non, ça c'est... alors. Et puis en plus, c'est DTS, donc en droit de tirage spéciaux. Alors il faut que les gens sachent ce que c'est finalement que les DTS. Mmh. Les DTS, c'est une forme de monnaie inventée par le FMI en 1969 pour compenser... la quantité de réserves donc qu'ils avaient en monnaie de dollars, etc. Donc ils ont voulu jouer une espèce de carte de sécurité sur le long terme en combinant plusieurs devises. Alors donc dans ces DTS, on trouve le dollar, on trouve l'euro, on trouve la livre sterling, on trouve le yen, on trouve le yuan. Bon, alors quand on sait que maintenant, avec le BRICS et l'ASEA, donc l'accord de l'Asie du Sud-Est et le nouveau système monétaire et financier qui est en train de se mettre en place là-bas avec la Banque de Shanghai et la Banque de Développement qui vient d'être créée avec l'élargissement du BRICS, etc., eh bien, il faudra bien voir que ces DTS ne signifient pratiquement rien. Et ensuite, le yen et le yuan risquent de détenir une place plus grande dans cette valeur du DTS, puisque c'est là qu'a les ateliers du monde. C'est pas en Angleterre avec la livre sterling, c'est pas
aux États-Unis.
Aux États-Unis avec le dollar, ni avec l'euro en France, ou même l'Allemagne est déjà en chute. Il y a d'autres façons de faire. Écoutez, Oxfam, cette ONG très sérieuse, a déjà calculé que si on allait chercher quelque chose comme 2 à 3% des fortunes du 1% qui possède la moitié de la planète, il y aurait de quoi éradiquer. Alors plus aussi si on va chercher 0,5% de 1% des transactions boursières journalières. Mmh. On va chercher des milliers de milliards de dollars. Et on éradique la pauvreté et la, etc. à l'échelle mondiale en quelques mois. Et surtout, on va pas aller exiger en plus de ces gens de faire avec 2 milliards ou 1,5 milliard par pays de l'économie verte qui est complètement en dehors même de leur radar. Je veux dire, on prend les radars de ces pays-là, il y a un regard dedans et il y a strictement rien qui ressemble à une capacité de rentrer dans les énergies vertes. Donc ça, c'est une grosse plaisanterie. Je pense que c'est du gain de temps. Ça n'a aucun sens. Et ce que je dirais donc au FMI, à la Banque mondiale et à cette dame, c'est d'aller sérieusement. Et je ne comprends pas comment se fait-il qu'ils ne le comprennent pas, que tout ce qui arrive à cette planète, tous les dégâts qui font que cette planète est en train de dégringoler économiquement, essentiellement évidemment, que tout ça, c'est dû à ce qu'on appelle l'activité humaine, et cette activité humaine se traduit aujourd'hui par le fait que, par exemple, les États-Unis, le Canada et l'Europe vivent ce qu'on appelle le overshoot day, le jour où on arrive à épuiser tout ce que la planète ne fait qu'en un an. Eh bien, ces pays-là, États-Unis, Canada, Europe, vivent avec 8 mois de crédit sur 2024. Pendant que si on prend la moyenne des pays africains, c'est à peu près 20 jours. La moyenne des pays africains, c'est 20 jours de crédit sur 2024. Et les pays nantis, États-Unis, Canada, Europe, c'est 8 mois. Alors, il faudrait tout de suite demander, par exemple, ce que Macron appelait la dette climat, que ces pays-là payent immédiatement, que le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, etc., enfin, je sais pas, toutes les instances compétentes réclament de ces pays qui vivent avec 8 mois de crédit de 2024 sur ce que la planète va avoir comme biens et services et commodités, que ces gens-là payent une dette climat proportionnelle pour abaisser leur dette vers 2024 et hausser la capacité des pays d'Afrique notamment à pouvoir vivre mieux, même si c'est sur une portion de 2024, mais une portion un peu plus grande que 20 jours quand même.
D'accord. Alors, dans ce cas-là, justement, parce que quand on demande aux pays africains d'aller investir dans les énergies vertes, d'abord on se demande qu'est-ce qui pollue en Afrique ? Qu'est-ce qui pollue en
Exactement.
Afrique ? Pourquoi
Exactement.
On va aller demander ? Je me rappelle, moi, c'était une expression qu'un ministre africain a dit, ce que vous nous donnez pour justement aller dans cette voie ne suffira même pas à payer les cercueils des Africains qui crèveront de faim à cause de la pauvreté que cela va générer. Donc,
Exactement.
C'est... Il s'agit pas de dire aux Africains d'aller faire un modèle où ils vont détruire tout pour se développer. Mais à votre avis, quelle est la voie médiane, intelligente pour que ces pays puissent se développer, mais aussi en faisant en sorte à ce qu'ils suivent pas ce modèle-là destructeur qui a été généré par le néolibéralisme et la consommation.
La voie médiane intelligente, elle est connue depuis 1972, depuis le premier rapport du Club de Rome, Halte à la croissance. Et ça s'appelle, et elle est connue aussi depuis les travaux d'un grand économiste de Harvard qui s'appelle John Kenneth Galbraith, depuis les années 70, sous deux formes. Alors la première forme, celle du Club de Rome, c'est ce qu'ils ont appelé la croissance organique différenciée. Alors la croissance organique différenciée, ça voulait dire en 72, hein, déjà en 72, que les pays nantis entrent en décroissance, c'est-à-dire par exemple que les États-Unis fassent une croissance négative de moins 5 ou moins 10%, ce qui se traduirait par exemple, moins d'ordinateurs par maison, moins de voitures par famille, moins de téléviseurs par chambre, moins de téléphones par chambre, etc. Ce qui n'est pas un énorme sacrifice. Moins 5 à moins 10% de croissance. Pour l'Europe, autour de moins 4, moins 5, quelque chose comme ça. Pour permettre, justement, une espèce de transfert de ce qui est économisé en termes de croissance négative pas trop dramatique pour les pays nantis, ça sera transféré en croissance positive pour les pays en voie de développement. Et donc leur éviter de massacrer le peu qui reste. Déjà, par exemple, le Sénégal, où je vais assez souvent, le Sénégal, ils sont incapables de cultiver du riz, alors qu'ils ne mangent pratiquement que du riz. À cause du dérèglement climatique, à cause du fait qu'il n'y a plus de paysans pour faire du riz, à cause du fait que la France, pendant la colonisation, a réduit le Sénégal à la monoculture d'arachide, etc. Ce n'est qu'un exemple. Bon, donc le deuxième de John Kenneth Galbraith, c'est ce qu'il a appelé la croissance zéro. Alors la croissance zéro, ça veut absolument pas dire stopper croissance du tout. Croissance, le zéro dans la théorie, donc dans l'équation développée par, ou le système d'équation développé par John Kenneth Galbraith, c'est le zéro de l'équilibre. C'est-à-dire quand on fait la somme de tout ce que les uns gagnent ou les autres perdent, etc., etc., on a une sorte de jeu à somme nulle où ce que les uns gagnent vient des autres et non pas de plus de dégradation de la planète. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Oui. Mais il y a beaucoup qui disent que justement cette façon de voir les choses est susceptible de provoquer des pauvretés, de chute de niveau de vie, et donc comme elles ont quand même une odeur de politique malthusienne, la dépopulation mondiale. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça?
Alors, c'est sûr que la démographie, la population mondiale qui va allègrement vers les 8-10 milliards d'individus, à moins qu'il y ait des catastrophes de nouveau Covid ou de nouveau je ne sais quoi qui viendraient dramatiquement abaisser le mouvement démographique mondial dans son ensemble, c'est vrai que c'est quelque chose qui est là et dont il faut tenir compte. Bon, et ce qui plaide en faveur du fait que il n'y a aucune raison pour qu'une famille américaine vive par jour avec l'équivalent d'un village africain pendant 6 mois.
Ça, c'est sûr.
Ça n'a aucun sens.
Absolument.
Ça n'a aucun sens. Ici, au Canada, au Québec, on a un institut dont j'ai fait partie à un certain moment, quand j'étais encore actif dans ce domaine-là, qu'on appelle l'IRIS, l'Institut de Recherche et d'Études Économiques et Sociales, vient d'établir que seulement pour le Québec, il y a eu ces derniers mois, les derniers mois de l'année dernière, de 2022, 22 milliards de dollars d'évasion fiscale. À l'échelle du Québec, 22 milliards, c'est l'éradication de tous les SDF. C'est l'éducation gratuite pour tout le monde. C'est la santé gratuite et de haute qualité pour tout le monde. Mais ce qui se passe, c'est que nos gouvernants, et parce qu'il faut voir les choses en face, nos gouvernants, nos puissants, les Macron, les etc., qui ignorent que Macron est une fabrication de des Rothschild? Qui ignore ça? Qui ignore que les gouvernements américains, les démocraties soi-disant occidentales, etc., etc., tout leur parlement, tout leur congrès ne sont que des hommes d'affaires et des hommes d'affaires riches. Donc, ils vont faire des lois pour eux, pour les riches. Alors, moi, j'aimerais bien qu'il y ait des parlements, des, etc., des congrès, où il y ait des représentants de SDF, des représentants de clochards, des représentants d'étudiants, des représentants de malades, etc., etc. Et donc, je me demande ce qu'on attend pour aller chercher cette fameuse taxe Tobin, qui est extrêmement facile et simple à appliquer, et aller chercher, par exemple, juste pour le Québec, pour tous les autres pays, ça doit être la même chose, j'en suis sûr, si cet institut qui s'appelle l'IRIS a été capable de trouver les entreprises, leur nom, leur numéro, les comptes au Luxembourg, les comptes au Liechtenstein, les comptes en Andorre, etc., etc., où ils ont mis 22 milliards, je me demande comment le gouvernement québécois ne peut pas les trouver et aller les chercher. Mais il va pas les chercher parce que ce sont ces gens-là qui financent le gouvernement pour qu'il soit gouvernement. Alors donc, tous ces problèmes-là, si on les laisse juste à des questions de raisonnement économique, on tourne en rond. Donc il faut sortir du raisonnement économique pour aller vers le raisonnement politique, vers le raisonnement d'économie politique, raison pour laquelle je fais un webinaire depuis maintenant je sais pas combien de mois qui s'intitule « Éléments d'économie politique et mensonge du néolibéralisme » et où j'essaye de montrer donc comment il faut sortir juste du raisonnement économique pour y intégrer tout ce qui tourne autour et tout ce qui y est intégré pour changer la donne économique à l'échelle mondiale. Alors donc, je répète, aller chercher 0,5% des transactions boursières journalières, ça peut se faire en un claquement de main. Deuxièmement, aller chercher 2% sur la fortune des 1% les plus riches de ce monde. On connaît leurs comptes, on connaît les banques, on connaît tout, et ça pour eux, ça sera une petite goutte de moins dans leur verre de vin, c'est tout. Et ce 2% plus 1,5%, eh bien, ça fera toute la différence pour l'Afrique, pour etc., etc., et pour sauver cette planète. Parce qu'il ne faut pas oublier que la planète est en train de nous éliminer, là. C'est évident. Mmh. La planète ne peut plus souffrir cette économie hyper, super extractive qui est en train de dépasser de 8 mois par an la capacité de la Terre à se renouveler. Donc, ce qui veut dire que dans 2, 3, 4, 5 ans, on arrivera, le overshoot day arrivera le 1er janvier. Et quand il arrivera le 1er janvier, ça veut dire qu'on n'aura plus de planète. On n'aura plus de bois, on n'aura plus de poissons, on n'aura plus de, les océans seront asphyxiés par le plastique, on n'aura plus de, peut-être plus d'oxygène, donc c'est urgent. Mais il faut ce que j'appelle un raisonnement global.
Donc, si j'ai bien compris votre raisonnement, professeur Aktouf, vous, c'est-à-dire ce que vous dites, il ne s'agit pas d'arrêter la croissance pour faire appauvrir les gens et les détruire par la famine ou le manque de santé, pas du tout, mais c'est de faire une croissance avec une responsabilité envers l'être humain et envers la nature, et faire en sorte qu'il y ait une harmonie de telle façon à ce que cette hyper-extraction des matières premières soit arrêtée.
Il faut la stopper le plus rapidement possible, urgemment. Et c'est surtout agir intelligemment. Agir intelligemment, ça veut dire que cette économie mondiale ne pourra faire vivre 7 ou 8 milliards d'individus que si et seulement si ceux qui vivent en un jour avec l'équivalent d'un village africain en 6 mois acceptent de vivre 10, 15 jours. C'est pas compliqué, c'est pas énorme. 10, 15 jours avec le même budget pour que le village africain puisse vivre avec un budget qui lui permette peut-être un mois. Et s'il lui permet un mois, il va aller extraire moins de bois, moins de la savane, moins de poissons, moins polluer les lacs, moins etc., etc. Donc c'est un jeu global à l'échelle mondiale. Et je rappelle donc John Kenneth Galbraith, aussi très grand économiste qui est malheureusement pas assez connu, mais il est pas assez connu. C'est comme les tiers-mondistes, comme Samir Amin, André Gunder-Frank, Lehadi Manjra, etc., Roger Caillois, René Dumont, etc. Ils sont pas connus parce qu'ils ne disent pas ce que les riches qui dominent le monde veulent entendre. Mmh. Ce que les riches qui dominent le monde veulent entendre, c'est toujours le même discours. On s'enrichit, on s'enrichit, on s'enrichit. Il n'y a pas de limite. Mais non, il y a des limites. Et c'est ce que dit ce John Kenneth Galbraith, donc de Harvard, de Cambridge aux États-Unis, de Boston, pardon, et qui dit, en dehors de la croissance zéro, c'est ce qu'il a appelé des comprehensive price, tax and income policy. Comprehensive, ça veut dire global. Donc une politique globale de prix, d'impôts et de revenus dirigés par les États. Donc un dirigisme. Mmh. Pas le marché laissé faire, là. Un dirigisme. Un dirigisme qui ferait un équilibre de contrôle entre les prix, les impôts, que chacun paye son juste impôt. Quand on sait, par exemple, que le CAC 40 français ne paye que 8% d'impôts. Maximum. Alors que c'est les deux tiers de la richesse française. Bon, à l'échelle mondiale, les riches ne payent pratiquement d'impôts, pas d'impôts. Bernard Buffett a écrit récemment à Biden pour lui demander de taxer les milliardaires en disant, écoutez, taxez-nous, parce que moi, Bernard Buffett, super, super milliardaire, je paye moins d'impôts que ma femme de ménage. La femme de ménage de Buffett paye plus. Alors, c'est ça que veut John Kenneth Galbraith. Et c'est une théorie économique qui se tient. C'est tout un livre. C'est pas du rêve, là. On peut très bien faire cette politique globale de contrôle et d'équilibre entre prix, revenus, paiement de juste impôt et consommation.
D'accord. Alors, une dernière question, professeur Aktouf. De point de vue de l'économie réelle, l'Afrique, bon, elle recèle beaucoup de matières premières. Par exemple, dans l'énergie, dans l'industrie, qu'est-ce qui est le plus adéquat, à votre avis, pour ce continent?
Personnellement, je suis adepte des théories des physiocrates. Et les physiocrates aujourd'hui, ce serait ce qu'on appellerait les écologistes. Bon, donc les physiocrates ont toujours dit que la seule et unique valeur solide et disons éternelle, si on peut parler comme ça, pour faire survivre l'humanité, c'est la terre et ce qu'elle donne. Bon, alors donc, cette terre et ce qu'elle donne, il faudrait que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Europe, que ce soit les États-Unis, l'Amérique ou l'Asie, enfin, peu importe. Je pense que l'Asie, l'Inde, la Chine, enfin, ce qu'on appelle les BRICS, enfin, le noyau, le noyau, hein, des BRICS, je pense qu'ils ont déjà, compris ça. Et ils ont des politiques de l'Allemagne aussi d'ailleurs, et les pays du capitalisme entrepreneurial comme la Scandinavie, le Japon, ils ont des politiques d'équilibre entre le maximum qu'on peut demander à leur terre et à la nature et le nécessaire pour vivre ou vivre confortablement ou un peu moins confortablement ou plus que confortablement. Donc, il faut chercher cet équilibre-là. Il faut savoir, par exemple, qu'en Allemagne et au Japon, il existe des lois. Et ça, j'aimerais qu'on l'ait en Afrique aussi, même si on a des ressources, on en a, c'est sûr. Mais il s'agit pas d'aller se précipiter dessus, creuser et machin. Par exemple, pour Adamizour en Algérie, si on exploite ce gisement de zinc et de plomb et de tungstène, je pense, quelque chose comme ça, de Adamizour, il y a des conséquences écologiques qui sont infiniment plus négatives que, apparemment, d'après les études qui ont été faites, que le rapport en qualité de vie. Bon, alors donc, il faudrait que tous ces pays-là se mettent dans la tête que il faut négocier avec la nature un contrat de survie mutuelle. Et ce contrat de survie mutuelle est le suivant. C'est 1, je ne coupe un arbre pour faire de la menuiserie ou de la charpente ou des maisons ou tout ce que vous voudrez que quand le même arbre aura grandi au même endroit avec la même biodiversité. La même chose pour le poisson. La même chose pour les minerais. Mmh. La même chose pour le pétrole. Je ne vais pomper un litre de pétrole que quand la terre aura refabriqué ce litre de pétrole. Mais ça, évidemment, ça implique que nous renoncions à énormément de cette folie de super confort où on est en train de vivre, notamment ici au Canada, aux États-Unis, on est en train de vivre avec des besoins qui ne sont plus des besoins. C'est des désirs, c'est des caprices. On vit avec des caprices, des folies. À quoi ça sert? Je viens de voir une publicité pour un modèle de Cadillac et un modèle de Hummer. Le Hummer, qui est un tank, un véritable tank, c'est un blindé.
Absolument.
Un blindé. Ici, c'est la mode. Et ça, mais pourquoi une famille a-t-elle besoin d'un blindé qui pèse quelque chose comme 12 ou 15 tonnes, qui bouffe je ne sais combien de centaines de litres d'essence ou de mazout par 10 kilomètres? C'est pas un besoin, ça. C'est une folie. Un nouveau modèle de Cadillac et un nouveau modèle de Lamborghini, je crois, qui est à quelque chose comme $200,000 à l'achat. Et sans compter tout ce qu'on met dans la fabrication de ce Hummer, de cette Cadillac, de cette Lamborghini, tout ça, c'est de l'acier, c'est du fer, c'est du charbon, c'est des métaux rares, c'est du cuivre, c'est du zinc, c'est de l'aluminium, etc., qui a déjà coûté à la terre, avant même que cette voiture ne commence à rouler, ça a déjà coûté à la terre peut-être 10 ans de survie de l'Afrique. Alors voilà, il faut retourner à ce raisonnement des physiocrates et se dire que la vie, comme l'a très bien établi Karl Marx d'ailleurs, entre autres, enfin il n'y a pas que Karl Marx, la vie devrait se limiter d'abord aux besoins essentiels et indispensables. D'abord, quand on a satisfait les besoins essentiels et indispensables de tout le monde, c'est-à-dire la survie, s'instruire, manger, dormir, avoir un toit, se transporter, se soigner, s'éduquer. Et ensuite, s'il y a du surplus, on achète une Cadillac.
D'accord. Ben, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Professeur Actouf, je vous remercie pour toutes ces éclairages et ces informations. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans une autre émission pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
Avec grand plaisir.
C'était Omar Actouf, professeur titulaire à HEC Montréal, membre du conseil scientifique d'Attaque au Québec. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Ouadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.